La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Kantner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous avez la parole dans 20 minutes. Notre débat sera consacré au choc causé par la mort d'au moins 135 personnes dans le centre du Mali. Samedi, deux villages peuls ont été pris pour cible. Leurs habitants tués, de nombreuses maisons détruites. Dès hier, le président malien a remplacé les principaux chefs de l'armée et dissous la milice Dogon d'Anna Ambassagou. Dites-nous ce que vous pensez de ces mesures. Vous connaissez les numéros pour nous joindre. Au téléphone, 33 9 693 693 70, sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais avant cela, RFI répond à vos questions sur l'actualité avec nos journalistes, nos correspondants sur le terrain et des experts. Le premier appel ce matin nous vient de Libreville. Bonjour Emmanuel. Quelle est votre question?
La semaine dernière, le président Donald Trump a annoncé reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. D'abord, pourquoi cette reconnaissance a-t-elle lieu maintenant? Est-ce lié à la campagne électorale?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Guilhem Deltey.
Bonjour Anne, bonjour Emmanuel.
Ça fait des dizaines d'années qu'Israël et la Syrie revendiquent le plateau du Golan, et cette annonce de Donald Trump intervient effectivement dans un contexte particulier puisqu'on votera dans 2 semaines pour des législatives en Israël. Y a-t-il un lien, Guilhem? Ce calendrier interpelle forcément.
Oui, évidemment, la question d'ailleurs n'a pas manqué d'être soulevée dès jeudi soir, dès le tweet de Donald Trump. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, qui était alors à Jérusalem, a assuré que bien, ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas d'ingérence américaine dans la campagne électorale. Mais ce calendrier, c'est vrai, interroge, d'autant que l'administration Trump ne ménage pas ses efforts pour marquer sa grande proximité avec Benjamin Netanyahu en cette fin de campagne. Mike Pompeo a passé 2 jours ici la semaine dernière. Il s'est notamment rendu au mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem, accompagné du premier ministre israélien, une première pour un responsable américain, car les dirigeants étrangers qui se rendent au mur des lamentations s'y rendent seuls, le mur étant situé dans la vieille ville qui se trouve, elle, du côté est. Cette fois-ci, Mike Pompeo a donc marqué une inflexion de la position américaine. Et puis Trump a ensuite annoncé donc qu'il entend reconnaître la souveraineté israélienne sur le Golan. Ce devrait être fait aujourd'hui à l'occasion de la réception de Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche. Alors les démenti de l'administration américaine de toute intervention dans la campagne électorale israélienne ont donc un petit peu de mal à convaincre. Mais si le calendrier interroge, eh bien la décision finalement, elle est en droite ligne, elle, avec la politique de l'administration Trump. Elle a désigné l'Iran comme la principale menace au Moyen-Orient. Elle a adopté des positions très pro-israéliennes pour plaire à son électorat évangéliste. Et cette reconnaissance était réclamée par Benjamin Netanyahu. Elle trouvait d'ailleurs aussi plus d'écho avec les tentatives iraniennes de s'implanter militairement en Syrie, après notamment de la ligne de démarcation avec Israël.
Guilhem Deltey, sur la route, c'est le quotidien des correspondants. Il y a un peu de bruit derrière vous, mais on va quand même poursuivre. Quelles peuvent être les conséquences de cette prise de position américaine?
Alors, dans les faits, cela ne changera rien. Le plateau du Golan, vers lequel je me dirige effectivement en ce moment, a été conquis par Israël au cours de la guerre des Six Jours en 1967, une conquête territoriale renforcée ensuite lors de la guerre de Kippour en 1973. Et en 1981, Israël a annexé le plateau à son territoire. La loi israélienne s'y applique donc depuis 38 ans désormais, même si jusque-là, aucun pays ne reconnaissait la légitimité de cette décision unilatérale israélienne. En fait, la reconnaissance américaine de cette souveraineté, elle est avant tout un succès diplomatique pour Benjamin Netanyahu. Cela veut dire que l'administration américaine ne fera plus référence au Golan comme un territoire occupé. Cette notion avait d'ailleurs déjà disparu d'un rapport du département d'État il y a une dizaine de jours. Et Israël peut espérer que les États-Unis s'opposeront désormais aux résolutions de l'ONU faisant référence à ce plateau comme territoire occupé, aux condamnations d'Israël dans les instances internationales en raison de cette occupation.
Emmanuel, vous êtes toujours en ligne de Libreville. Vous aviez une autre question, je crois, sur ce sujet.
Oui. Et pourquoi cette région est toujours aussi convoitée, presque 60 ans après, presque 50 ans après son annexion par l'Israël?
Oui, alors Guilhem Delteil, on vous retrouve sur la route. Pourquoi le plateau du Golan est-il si précieux aux yeux des Israéliens et des Syriens ?
Eh bien, il est stratégique, ce plateau, à plusieurs niveaux. Anne. Tout d'abord, sur le plan militaire, c'est un plateau qui est donc en altitude, par définition, et qui domine le territoire israélien internationalement reconnu, particulièrement le lac de Tibériade et la vallée du Jourdain. Et entre 1948 et 1967, lorsque ce plateau était contrôlé par les Syriens, eh bien, d'importants effectifs militaires syriens étaient alors présents là-haut, et la Syrie pratiquait une politique de harcèlement à l'encontre des habitants israéliens qui vivaient en contrebas, tir à la mitraillette sur des habitations, bombardements également. Pour Israël, cette conquête a permis de mettre fin à ces offensives. Pour la partie syrienne, la position elle est stratégique aussi, car de l'autre côté, eh bien, le plateau domine la route d'accès à Damas. Et aujourd'hui, il y a une zone démilitarisée entre les deux pays. Et puis le plateau du Golan, il est aussi stratégique sur le plan de l'accès à l'eau. C'est une ressource évidemment très rare au Proche-Orient, et elle s'est retrouvée au cœur de tensions entre les pays de la région. C'est d'ailleurs toujours une source de disputes. Et le Golan joue un rôle essentiel. Il est considéré comme le château d'eau de la région. De nombreux petits cours d'eau y prennent source et ils alimentent le Jourdain et le lac de Tibériade. 15 à 20% des eaux d'Israël.
Bon, finalement, la route aura eu raison de notre échange avec Guilhem Delteil. On a pu entendre l'essentiel de ses explications. Le plateau du Golan, donc stratégique à deux niveaux. D'abord sur le plan militaire et puis parce que c'est également, il comporte d'importantes ressources en eau, qui est une ressource rare dans la région. Guilhem, merci d'avoir été avec nous. Emmanuel, passez une très bonne journée à Libreville. Nous accueillons maintenant un deuxième auditeur. Bonjour Zaki.
Bonjour Anne.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad pour nous parler des derniers rebondissements autour du Brexit qui était initialement prévu à la fin de cette semaine, le 29 mars. On vous écoute.
Évidemment, l'Union européenne a proposé à la Première ministre Theresa May de négocier la sortie de l'Union européenne le 12 avril, soit le 22 mai. Sur ce, j'aimerais savoir pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas retenu la date initiale du 30 juin.
Alors, pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est joué donc la semaine dernière, nous sommes en ligne avec Catherine Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et spécialiste du Royaume-Uni. La semaine dernière, la première ministre britannique était venue chercher un report plus long. Elle aurait aimé prolonger en fait la période de négociation jusqu'au 30 juin, mais les dirigeants européens ont dit non. Pourquoi ?
Alors, en fait, cette date du 30 juin a été évoquée depuis déjà de nombreuses semaines, notamment du côté de l'Union européenne, en disant que ce serait la date limite parce que la première réunion du Parlement européen après les élections de mai aurait lieu début juillet. Mais effectivement, la semaine dernière, le Conseil européen a eu une position plus dure, a souhaité mettre la date du 22 mai en dernière date possible de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne parce que les élections européennes se tiendront du 23 au 26 mai, et donc cela permettrait véritablement que le Royaume-Uni soit sorti avant que les élections européennes aient lieu. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas, que le Royaume-Uni ne soit pas dans une situation de discuter sur sa sortie possible de l'Union européenne au moment de la campagne électorale, le Conseil a dit au Royaume-Uni, la date, c'est le 12 avril, la date de sortie, s'il n'y a pas d'accord, si vous ne validez pas l'accord qui a été signé par Theresa May avec l'Union européenne en décembre dernier.
Donc cet accord avait été approuvé avec les Européens et le délai qui a été accordé en principe doit permettre à Theresa May de le faire enfin valider, mais les députés britanniques l'ont déjà rejeté à deux reprises. A priori, rien n'indique qu'ils soient prêts à voter différemment cette semaine. Qu'est-ce que la Première ministre peut espérer de nouveau maintenant ?
Eh bien, aujourd'hui, la situation de Theresa May est particulièrement difficile parce qu'effectivement, son projet d'accord a été refusé deux fois par le Parlement. L'Union européenne dit à Theresa May, faites voter ce projet d'accord, mais les parlementaires britanniques n'ont pas de raison de changer d'avis sur ce projet d'accord. Donc ce qui va se passer cette semaine, très probablement au Parlement britannique, c'est qu'il va y avoir une série de votes qui va avoir pour but de demander aux parlementaires pour quel type de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ils sont, ou s'ils sont pour rester dans l'Union européenne, essayer de faire dégager une majorité au sein de ce Parlement britannique qui est terriblement divisé et qui, pour l'instant, n'est d'accord que sur quelques points. Le Parlement ne souhaite pas qu'il y ait une sortie sans accord. Pour l'instant, le Parlement ne souhaite pas qu'il y ait un nouveau référendum, mais le Parlement n'a pas de majorité sur quel type d'accord, quel type de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et bien sûr, cela place Theresa May dans une situation très difficile. Il n'est pas impossible que cette semaine, elle soit d'ailleurs amenée à démissionner, poussée par la partie des hard Brexiteurs de son parti qui souhaite qu'elle parte.
Alors, vous parliez de l'éventualité d'un nouveau référendum qui ne convainc pas donc les députés, mais des centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Londres. Il y a eu une marge justement pour se mobiliser pour un nouveau vote. En quelques mots, est-ce que c'est quand même une éventualité qu'on peut envisager dans les semaines à venir ?
Oui, ça reste une éventualité qu'on peut envisager parce qu'effectivement, les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent en termes de Brexit. Et donc, finalement, alors que le référendum, jusqu'ici, les parlementaires ne le souhaitent pas non plus, parce qu'ils disent il y a eu un vote en 2016, il faut respecter ce vote. Mais si on ne trouve aucune solution, aucune issue, à un moment donné, peut-être la question du référendum deviendra-t-elle possible. Mais selon moi, ce ne serait pas un référendum pour dire souhaitez-vous rester ou sortir dans l'Union européenne, mais ce serait peut-être un référendum pour demander aux Britanniques souhaitez-vous valider l'accord négocié par Theresa May.
Et s'adresser directement à la population au lieu de passer par le Parlement. Merci beaucoup Catherine Mathieu.
Je vous en prie.
Zaki, j'espère que nous avons répondu à vos questions donc sur le Brexit. On vous souhaite une très bonne journée. On va prendre une nouvelle question dans un instant, mais avant cela, je voulais juste vous rappeler le thème de notre débat du jour. Les mesures prises après le massacre d'au moins 135 Peuls dans le centre du Mali. Hier, le président a réagi en limogeant une partie de la hiérarchie militaire. Ibeka a aussi dissous la milice Dogon d'Anna Ambassagou. Est-ce suffisant? Qu'attendez-vous des autorités? Appelez-nous, il n'est pas trop tard pour participer. Pour l'instant, ce sont donc vos questions sur l'actualité. La suite, bonjour Alassani.
Oui, bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
De quoi vouliez-vous nous parler?
Oui, j'ai des questions concernant la démission du président du Kazakhstan.
Allez-y.
Alors, le président du Kazakhstan, Nazarbayev, a fait plus de 30 ans au pouvoir. Subitement, il vient d'annoncer sa démission. Alors Anne, quelles sont les raisons de sa démission après plus de 30 ans au pouvoir? S'écarte-t-il véritablement du pouvoir? Comment expliquer que Nazarbayev était ainsi populaire alors que la situation des droits de l'homme était régulièrement critiquée?
Alors le chercheur Samuel Karkanag est avec nous par téléphone. Vous travaillez à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que l'annonce de la démission du président Nazarbayev semble avoir un peu surpris. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors effectivement, c'est une surprise et ce n'est pas vraiment non plus une surprise. Il était la succession est un objet de préoccupation pour les observateurs depuis une dizaine d'années environ. On le sait malade, ce président Nazarbayev, et on savait que cette succession allait devoir se passer à plus ou moins court terme. Effectivement, elle a surpris dans sa forme, puisqu'il a démissionné lui-même en l'annonçant à la télévision. Dans le même temps, il avait préparé cette succession. Il y avait une série de réformes dans les années précédentes qui faisaient une sorte de transfert de pouvoir de la fonction présidentielle au Parlement notamment, ou au Sénat. Il avait été nommé au Conseil national de sécurité pour garder un œil sur la politique.
Contrôle d'autres institutions très importantes dans le pays encore.
Exactement, et les institutions dans lesquelles il avait été nommé à vie ont été leurs pouvoirs ont été renforcés. Donc en fait, c'est une démission dans la continuité puisque il conserve un pouvoir assez important dans le système de décision et dans l'État kazakhstanais et de fait, il va continuer à peser de façon extrêmement importante dans la vie politique de ces prochaines années au Kazakhstan.
Et alors en quelques mots, notre auditeur s'interrogeait aussi sur la popularité de Nursultan Nazarbayev. Comment est-ce qu'on peut expliquer que son image soit aussi positive? Est-ce qu'elle l'est vraiment?
Oui, comme dans beaucoup de pays de l'ex-URSS, Nazarbayev a été comme on pourrait dire, associé à la construction de l'État kazakh moderne. Il est, comme vous le rappeliez, au pouvoir depuis 30 ans, et donc il est presque indissociable du pays et de son développement de ces dernières années. Les matières premières ont beaucoup aidé au développement économique du Kazakhstan, ce qui fait que il y a eu une certaine prospérité. Alors évidemment, on est loin d'un pays industrialisé, mais les conditions économiques de la population se sont améliorées depuis les années 90.
Mais c'est sans doute quelque chose qui a contribué à améliorer son image, si je vous suis bien, Samuel Karkanag. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS. Merci beaucoup à Lassani pour votre question. N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler si vous souhaitez des précisions sur un sujet d'actualité. Dernière question. On va parler maintenant d'un projet assez incroyable à Hong Kong. Bonjour, Taneni.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de N'Djamena. On vous écoute.
Anne, Hong Kong vient d'annoncer la construction d'une des plus grandes îles artificielles du monde pour un coût impressionnant de 500 000 milliards d'euros. Alors Anne, on se demande pourquoi Hong Kong a décidé de lancer ce gigantesque projet de construction. Dispose-t-elle des moyens nécessaires pour réaliser ce projet avant 2035?
Alors le montant est effectivement impressionnant, mais c'est 70 milliards d'euros, ce qui est déjà énorme. C'est Stéphane Lagarde qui va répondre à toutes ces questions. Bonjour Stéphane.
Bonjour Anne, bonjour Tanani.
Correspondant de RFI en Chine, ce n'est pas la première fois que Hong Kong envisage de construire une île artificielle, loin de là. Mais cette fois-ci, le projet est immense. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à envisager de tels travaux?
Alors ça, c'est très simple. La question, pour le coup, il est facile d'y répondre. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de place à Hong Kong, officiellement région administrative spéciale, mais qui en réalité, comme son nom l'indique, est d'abord un port, le port au parfum, hein, dit-on ici. C'est l'une des villes où le mètre carré est le plus cher au monde, et quand on a plus de bien, on pousse non pas les immeubles, mais les immeubles, et comme à Dubaï ou comme à Monaco, eh bien, le président à Monaco, où était le président chinois hier, eh bien, on construit sur la mer et précisément sur les polders. Avec ce projet, il est prévu de construire entre 260 000 et 400 000 logements qui seront occupés par 700 000 à plus d'un million de Hong Kong.
Alors le coût de ce projet est à la mesure de l'ampleur des travaux. Hong Kong a-t-il les moyens de ses ambitions, Stéphane?
Alors là, ça dépend qui fait les calculs, Anne. Hein. Évidemment, pour les autorités, ça sera très rentable. Le chantier va se dérouler en plusieurs phases. Selon Juan Weilong, le ministre du Développement de Hong Kong, il s'agit dans un premier temps de combler...
Bon, décidément, on n'a pas beaucoup de chance ce matin avec les liaisons téléphoniques. On va essayer de retrouver Stéphane Lagarde. Stéphane, vous étiez en train de nous expliquer que le coût des travaux varie selon les personnes qui les calculent. Je le rappelle, hein, le montant des travaux qui sont envisagés, c'est 70 milliards d'euros. Le tout pour agrandir une île artificielle et construire jusqu'à 260 000 appartements pour essayer d'héberger davantage de personnes, parce que Hong Kong est surpeuplé et qu'on a du mal à loger tout le monde. Stéphane, on vous a retrouvé. En quelques mots, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer si Hong Kong a les moyens nécessaires pour réaliser ce projet?
Alors, je vous disais, ça dépend de qui fait le calcul, mais pour les autorités, effectivement, on parle d'un chantier en plusieurs phases. Donc, premier point, il s'agira de combler 1000 hectares de mer, donc ça fait à peu près 3 fois le bois de Vincennes, je ne sais pas combien ça fait en équivalent à N'Djamena, mais en tout cas, donc 140 milliards, la deuxième étape, c'est 116 milliards de dollars hongkongais pour la construction des infrastructures, deux ports, ensuite 95 milliards, et au total donc une facture de 624 milliards de dollars de Hong Kong, ce qui fait à peu près 70 milliards d'euros, vous avez raison, c'est bien au-dessus des moyens de la ville, des autres grands projets, mais pour les autorités locales, encore une fois, avec simplement un quart des logements construits, un quart des terrains vendus, eh bien la ville serait bénéficiaire, et cela permettra de créer des emplois et d'augmenter le PIB de la ville. Donc il y a des discussions là-dessus, et puis discussion aussi sur l'environnement. Il a raison, Tanani, cette île de Lantau est un réservoir pour l'environnement, c'est une grande montagne. Pour le journal Qingdao, dans son édition du 20 mars, effectivement, ce projet permettra de réduire la panique du manque d'espace, mais cela aura un coût pour l'environnement, et notamment pour la vie marine. Les écologistes sont très inquiets, ils craignent l'impact de ces infrastructures sur une espèce déjà très menacée ici, celle des dauphins blancs. Donc on craint pour la vie.
Pour l'environnement. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'avoir répondu aux questions de Taneni.